Tous, à toutes, ça marche? Oui. C'est bon de vous voir encore. J'étais en déplacement pendant les dernières quelques semaines et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. L'été a commencé. Je crois que nous avons tous mettre nos clims. Et j'étais en Angleterre cette semaine et c'était incroyable. Beaucoup de soleil, il était chaud, 30 degrés, c'est incroyable. Nous étions dans le soleil, un peu brûlé, mais ça va, les Anglais s'étaient crevés, c'était fini, c'était trop, mais c'est moins qu'ici. Je souhaite une bonne fête à toutes les pères pour aujourd'hui. Et à vous tous, j'espère que vous avez eu le temps pour honorer vos pères aussi aujourd'hui. Je voudrais vous parler aujourd'hui sur un petit voyage après mon dernier message sur le cœur de Dieu et l'Éthiopienne que j'ai fait récemment et qui m'a donné une matière de réflexion. Tout a commencé avec une simple question. Comment puis-je chercher le cœur de Dieu? Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai posé cette question, ni quelle en était la raison. La question elle-même m'a intrigué, et après quelques minutes de recherche, j'ai découvert qu'elle était tout à fait erronée et mal avisée. N'est-il pas trop difficile de trouver le cœur de Dieu? Il est ici, dans les Écritures. C'était vraiment facile de chercher le cœur de Dieu. J'ai rapidement trouvé plusieurs versets décrivant le cœur de Dieu. Et l'un des plus célébrés, c'est, voilà, Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce que qui m'a rassure. Face à ceux qui me veulent de mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bout. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suit pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Maintenant, vous ne devriez pas être surpris que j'ai choisi ce passage d'Écriture pour décrire le cœur de Dieu. Car la beauté de ces vers transcende notre compréhension de la compassion, de l'amour, de la sollicitude et de l'immensité du cœur de Dieu. En voici un autre très connu. Jean 3, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est facile de trouver le cœur de Dieu. C'est vraiment facile. Vous comprenez maintenant pourquoi ma question était futile et dénuée de sens dès le départ. Le cœur de Dieu se manifeste dans chaque aspect de notre vie, dans tout ce qui nous entoure, dans notre simple existence. Et même l'univers proclame l'immensité du cœur de Dieu. J'ai prié et remercié Dieu pour son cœur, pour l'amour et la compassion qu'il a pour chacun d'entre nous. Quand j'ai senti le Seigneur me poser cette question redoutable, « Et ton cœur ?» Ah, à cet instant, je me suis senti condamné. Vous voyez, cela m'a rappelé sur 1 Samuel 16, c'est le prochain slide. Oui. Mais le Seigneur lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Et puis aussi, Jérémie 17, 9 à 10. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut pas le guérir. On ne peut rien y comprendre. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Je voudrais que vous vous posiez la question suivante. Comment va votre cœur aujourd'hui? C'est une question simple, mais pourquoi est-elle importante? Lorsque nous devenons chrétiens, nous disons « J'ai donné ma vie à Jésus » ou « J'ai donné mon cœur à Jésus ». Aujourd'hui, j'ai senti la besoin de nous encourager à prendre soin de notre cœur et de poser la grande question de l'état de notre cœur. Comme on dit, pourquoi est-ce important? Proverbe 4, 23 nous dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. C'est vraiment important. C'est pourquoi Dieu se préoccupe de notre cœur et observe nos cœurs. Nos actions découlent de notre cœur. J'ai déjà parlé par le passé de la connaissance intellectuelle et de la connaissance du cœur. La connaissance intellectuelle est ce que vous avez appris et ce que vous savez grâce à votre expérience ou à votre apprentissage tout au long de votre vie. La connaissance du cœur, c'est lorsque vous prenez cette connaissance intellectuelle et que vous vous l'appropriez. Vous changez votre vie en fonction de cette connaissance intellectuelle. On transforme les choses dans nos têtes, dans nos cœurs. Ça transforme nos actions, ça transforme nos vies. Donc si la Bible nous enseigne comment nous devons vivre nos vies, et je suppose que nous lisons tous la Bible, nous acquérons la connaissance intellectuelle de ce que Dieu nous a dit être, la manière dont nous devons mener notre vie. Ce que nous devrons faire activement, c'est transférer cela dans notre cœur. changer notre vie en fonction de cela afin que cela fasse partie qui nous sommes. Une fois que nous avons changé notre cœur, notre expression change. Vous me suivez? Lorsque nous devenons chrétiens, nous changeons activement notre cœur en commençant à assumer le rôle de fils ou de fille de Dieu. Certains changements se produisent rapidement, d'autres prennent beaucoup de temps. Cela m'a rappelé la vieille chanson « Changement que au Dieu ». David, merci. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te le chanter. Oh, désolé. C'est une ancienne chanson, mais c'est vrai toujours. Aujourd'hui, tout en étudiant nos cœurs, je voudrais vous donner quelques conseils et indications pour nous aider à renouveler nos cœurs, à changer nos cœurs et à permettre à la connaissance intellectuelle de devenir une connaissance du cœur. Je ferai référence à un grand nombre des versets qui figurent tous sur les diapos. Et je vais commencer avec un cœur ouvert au changement. En préparant ce texte, j'ai commencé par énumérer certaines qualités essentielles de qui Dieu cherche, quelles sont les plus importantes. L'amour, la gentillesse, le pardon, la gratitude, etc. Cependant, il y a une qui m'a particulièrement marqué. C'est celle d'avoir un cœur ouvert à changement. Les autres qualités n'ont aucune importance si nous ne possédons pas celle-ci. Je viens de parler de la connaissance intellectuelle et de la connaissance du cœur. Pour avoir la connaissance du cœur, vous devez changer ce qui se trouve déjà dans votre cœur. Vous ne pouvez pas mettre de l'amour dans votre cœur si la haine s'y trouve déjà. Vous devez d'abord éliminer la haine avant de pouvoir vraiment aimer. Lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, votre premier acte a été de vous soumettre à Dieu et d'accepter le Christ comme votre sauveur. C'était le début de le processus d'acceptation, de changement de votre cœur. À ce moment-là, vous avez fait le choix de passer de l'incrédulité à la croyance. La volonté de changer permet à Dieu de nous façonner comme le potier, façonner l'argile. Alors qu'il nous modèle, nous nous soumettons au changement qu'il a porté et qu'il fait de nous une belle création qui reflète sa lumière dans le monde qui nous entoure. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cette transformation du cœur changera notre identité et notre but. Pourquoi voulons-nous nous accrocher à l'ancien? Pourquoi? Et ne pas laisser entrer le nouvel, les nouveaux. Pourquoi voulons-nous nous accrocher aux choses du passé? À notre ancienne vie, l'ancien moi, et ne pas nous permettre d'être transformés en la nouvelle personne que Dieu veut que nous soyons. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le changement commence à l'intérieur. C'est une décision consciente que chacun de nous doit prendre. Nous changeons intérieurement et les résultats se voient dans nos actions. Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se reprend et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. C'est une excellente analogie que Christ a utilisée. Nous ne pouvons pas rester qui nous étions si nous voulons embrasser la vie que Dieu a prévue pour nous. Nous devons être prêts à changer. Chaque dimanche, lorsque vous quittez cet endroit, vous devriez avoir appris quelque chose de nouveau ou avoir été interpellé par Dieu. Vous devriez sortir d'ici avec la volonté de changer votre vie, d'être nouveau et de laisser l'ancien derrière vous. Il en va de même pour les groupes de vie, groupes de maison, groupes hommes, etc. Ou lorsque vous lisez votre Bible. C'est un processus continu. Et nous devons toujours être prêts à écouter Dieu et avoir un cœur soumis, disposé à laisser l'ancien derrière nous et à entrer dans la liberté de nouveau. Numéro 2. Le cœur de l'amour. Cela devrait être facile. Nos cœurs d'être enracinés dans un amour véritable, un amour qui reflète notre foi. J'ai partagé plus tôt Jean 3, 16. Jésus a donné sa vie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Un amour pur et désintéressé. Notre amour devrait ressembler à cela. Il devrait être complètement désintéressé. Notre amour devrait refléter l'amour que Dieu a pour nous. L'amour devrait guider nos décisions et être évident dans tout ce que nous faisons. La façon dont nous nous traitons l'un les autres, dans les choses que nous faisons les uns pour les autres, la façon dont nous réagissons les uns aux autres. Je peux continuer encore et encore. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. Il faut que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Non seulement nous devons penser à nous aimer les uns les autres, mais c'est aussi un commandement. Et un commandement n'est pas seulement une suggestion, c'est presque une obligation. On n'a pas le choix. Et pour le faire, on a besoin de changer nos cœurs. Comment traitez-vous les autres, qu'il s'agisse de vos amis ou de votre famille, ou d'une personne qui vous croisait dans la rue ou de quelqu'un qui vous coupe la route de la circulation. Ah oui. Je pourrais en dire beaucoup plus à ce sujet, mais j'ai 15 points de partager aujourd'hui. Non. On a parlé beaucoup sur le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. Ce n'est pas nécessaire de prendre beaucoup plus de temps. Et je crois que nous avons des autres points de réfléchir aussi. Numéro 3, un cœur reconnaissant. David? Oui, merci. Vous étiez brisé. Vous êtes maintenant nouveau. Vous meniez une vie brisée et vous menez maintenant une vie libre. Nos cœurs devraient être remplis de gratitude. Nous avons parlé de ça ce matin. Ce besoin d'être rempli de gratitude. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie éternelle, d'orphelin à héritier. Que signifie vraiment la gratitude? La réponse n'est pas simplement de dire merci. La gratitude détourne notre attention de ce que nous n'avons pas ou ce que nous voulons pour la porter, ce que nous avons. De notre manque à quelque chose d'abandon que nous possédons déjà. Cela crée en nous un esprit joyeux qui apporte des sentiments authentiques et de la valeur à nos relations. Nous avons déjà lu un Thessaloniciens 5 ce matin. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons reconnaissants en toutes choses, car cela nous aide à être positifs, à apprécier que nous avons et à nous apprécier les uns les autres encore plus. Colossiens 3, 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Qui cherche la paix dans sa vie? Qui cherche la paix? Qui est toujours anxieux, troublé, qui a l'impression de se battre et qui a juste besoin de paix? Amen. Soyez reconnaissants. Reconnaissons sur les choses que vous avez. Exprimez votre gratitude, car lorsque nous sommes reconnaissants, cela apporte la paix dans nos cœurs. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, présentez vos requêtes à Dieu. Cela donne un nouveau sens à nos prières. Approcher Dieu avec nos demandes en tout en étant reconnaissant change notre perspective. Mais nous avons besoin de quelque chose. Oui, nous voulons quelque chose, mais nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons déjà. Cela nous permet d'accepter où nous en sommes aujourd'hui. Ce que nous avons est de savoir que par sa grâce, Dieu répond à nos prières. Notre avenir ne dépend pas de ce que nous n'avons pas, de ce désir d'avoir plus, cela apporte la paix de savoir que Dieu a pourvu et a pourvoira. C'est bon? Numéro 4. Un cœur prêt au pardon. J'ai déjà prêché sur le pardon, alors n'hésitez pas à rechercher ce sujet pour en savoir plus sur le site web. Mais combien d'entre vous connaissent David Tee? Nous connaissons tous George Tee, qui est parti de nos églises, mais il a un frère, David. J'ai rencontré David l'année dernière, lorsqu'il est venu pour le festival, il a fini par passer plusieurs jours avec nous en famille. David a un puissant ministère de guérison et il parcourt le monde pour prêcher, enseigner et guérir les gens. C'est un personnage incroyable, d'une humilité et d'une douceur absolue. Il revient pour le festival cette année et je vais profiter parce qu'il va passer par notre maison encore. Il a publié l'année dernière un livre sur ses expériences dans le but d'enseigner aux autres le ministère de guérison, de la guérison. J'ai lu un parti la semaine dernière et il y a parlé de l'une des attitudes les plus courantes qui bloquent la guérison dans votre vie, le manque de pardon. Nous pensons souvent que c'est la foi, mais c'est loin d'être vrai. Il a illustré son propos par une histoire tirée d'une l'une de ses expériences en Ouganda. Il avait été appelé à rendre visite à une vieille dame handicapée. Elle est restée gravement handicapée à la suite d'un accident où elle avait été renversée par une moto. David, en la voir, elle était dans une mauvaise état. Il était trop nerveux pour le regarder pendant qu'il prier pour sa guérison. Ses prières ont été remarquablement courtes, ne durant que quelques minutes. Et miraculeusement, ses membres de tordu se sont redressés. Une de ses jambes a grandi une dizaine de centimètres devant lui. Puis la guérison arrêtait là. David savait ce qui manque et a donc demandé à la dame de pardonner à l'homme qui l'avait renversé il y a toutes ces années. Elle a refusé. Elle était guérie à 90%. Elle a refusé. Sa famille l'a supplié. Elle a refusé. Finalement, ce qui aurait dû être un moment de grande joie se termine en tragédie à cause de son manque de pardon. Elle n'a pas pu recevoir la guérison complète que Dieu voulait pour elle. Elle était guérie à 90%. Mais son orgueil et son refus de pardonner l'ont empêchée de recevoir la plénitude que Dieu avait prévue pour elle. Ça, c'est une tragédie. Et c'est le même pour nous tous. Dieu veut que nous avons une vie complète, remplie avec les choses. Mais souvent, c'est nous sommes embêtés par le manque de pardon. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissons, vous, pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. La bonté et la compassion doivent être intentionnelles et nous pardonnons comme nous avons été pardonnés. Lorsque nous pardonnons, cela guérit d'abord notre propre cœur, mais cela crée également un environnement d'amour autour de nous. Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez pardonner? Ne gardez plus cette rancœur. Appelez-le. Rendez-lui visite. Allez le voir. Peu importe, mais demandez-lui pardon. C'est nécessaire. Numéro 5. Un cœur humble. Pour ceux d'entre vous qui espéraient que je partage 15 points sur le changement du cœur, je suis désolé de vous décevoir. Il n'y a que 5. Et pour ceux qui craignent que je partage 15 points, vous pourrez rentrer chez vous à temps pour le déjeuner aujourd'hui. J'ai décidé de garder celui-ci pour la fin. Il m'est très facile de dire que nous devons changer notre cœur et de nous encourager à le faire. Mais malheureusement, changer notre cœur n'est pas toujours un processus facile. Certaines décisions sont rapides à prendre. Elles peuvent être mises en œuvre rapidement. Cependant, les changements dans notre cœur ne sont pas simples et n'ont pas d'effet simple sur nous. Et comme la dame d'Ouganda, nous avons souvent besoin d'aide pour changer nos cœurs. L'essentiel n'est pas seulement de savoir que nous avons besoin d'aide, mais d'être humble pour accepter l'aide de Dieu afin d'entrer dans une vie de transformation. La société nous enseigne d'être fiers, fiers de qui nous sommes et d'être fiers de nos réalisations et souvent de nos expériences. Et très souvent, l'un des obstacles à notre transformation est en fait l'orgueil. Nous savons, nous reconnaissons et nous voyons la nécessité du changement, mais nous laissons l'orgueil nous barrer la route. La Bible nous appelle à servir les autres et à rechercher la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. C'est cela, s'humilier. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Lorsque nous nous humilions devant Dieu le Père, il nous élève, nous remonte le moral et change notre cœur de l'intérieur. La paix et la patience s'installent. Nous devons plus compréhensifs, oui, et permettons à Dieu d'agir dans notre vie. Philippiens 2, verset 3. Ne fais rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité nous enseigne que les autres ont aussi de la valeur et que nous ne sommes pas le centre du monde. Nous cherchons à servir les autres par l'humilité, plutôt que de rechercher nos propres désirs personnels. J'aime Proverbe 22, 4. Le fruit d'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse de la gloire et la vie. Grâce à l'humilité, Dieu enrichit nos vies. Il ne s'agit pas des choses matérielles, mais des choses éternelles. Et enfin, Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir dans des sentiments modestes, selon le mesure de foi que Dieu a de partie à chacun. L'humilité nous apprend à reconnaître nos faiblesses et qui nous sommes vraiment, à ne pas nous comparer aux autres. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes qui nous sommes et que nous serons qui nous serons. Nous comptons sur Dieu pour nous donner la force nécessaire tout au long de ce voyage. En rentrant chez vous aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir à votre propre cœur. Demandez à Dieu de vous montrer ce qui vous devez changer. Quelle connaissance intellectuelle doit devenir des connaissances du cœur? Y a-t-il des choses dont Dieu vous a parlé et que vous avez ignorées? C'est important. C'est important. Merci beaucoup.